Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 28 septembre 2018. Le Burundi suspend pendant 3 mois les activités des ONG étrangères jusqu'à ce qu'elles se conforment à une nouvelle loi. Au Cameroun, les avocats des victimes de l'accident de train à Ezeka estiment trop faible le montant des indemnités. La mairie de Kinshasa autorise un meeting de l'opposition demain vendredi. Le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako. Et nous aurons un entretien exclusif avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à New York. Vote préliminaire au Sénat américain sur la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême après son audition et celle de son accusatrice hier. La Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Le Burundi a décidé de suspendre pendant 3 mois les activités des ONG étrangères jusqu'à ce qu'elles mettent en application une loi contrôlant leurs opérations. Après avoir analysé le fonctionnement des ONG œuvrant au Burundi, le Conseil national de sécurité a constaté que la plupart d'entre elles ne se conforment ni à la loi ni aux textes qui les régissent, a affirmé le secrétaire exécutif du CNS, Sissas Ntingurirwa. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Aussi, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Une résolution a été adoptée par 23 voix sur les 47 États siégeant au Conseil. 7 pays ont voté contre et 17 se sont abstenus. Au Cameroun, les deux collectifs d'avocats qui défendent 280 victimes du déraillement d'un train en 2016 à Ezeka, qui a fait 79 morts et 600 blessés, ont estimé trop faible le montant des indemnités déterminées par la justice.
Mercredi, un tribunal d'Ezeka a condamné l'entreprise Camorail, filiale du groupe Bolloré, à payer 50 millions de francs CFA de réparation aux 60 victimes défendues par maître Olivier Moteng. « Nous ne sommes pas satisfaits de la décision du tribunal d'Ezeka », a indiqué maître Moteng. L'avocat réclame 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts pour ses clients. Le montant des indemnités de plus de 220 autres victimes défendues par un deuxième collectif d'avocats n'a pas été déterminé. Ce deuxième collectif réclame plus de 150 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les avocats rappellent que le milliard de francs CFA promis il y a plus d'un an par la présidence camerounaise n'a pas été reçu par les familles ou ayant droit. Le 21 octobre 2016, la route Yaoundé-Douala a été coupée suite à de fortes pluies. Les voyageurs étaient obligés de prendre le chemin de fer. Au train de 9 voitures a été ajouté 8 wagons et la vitesse a fait le reste. Le train a déraillé à Ezeka, dans le centre du pays, faisant 79 morts et quelques 600 blessés.
Dans un communiqué, l'armée congolaise a accusé une coalition de ressortissants étrangers d'être responsable des tueries à répétition à Beni, dans l'est de la RDC. Elle accuse, je cite, « une coalition terroriste internationale regroupant des sujets ougandais, rwandais, burundais, kényans, tanzaniens, sud-africains, mozambicains, ainsi que d'autres renégats œuvrant à partir de certains pays voisins d'être responsable des tueries et autres atrocités à Beni, Uvira et Fidji. En RDC, la mairie de Kinshasa a autorisé un meeting des partis d'opposition près du Parlement à moins de 3 mois des élections, engagé dans un processus de désignation d'un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre contre Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin de Joseph Kabila. Les principaux ténors de l'opposition avaient informé le gouverneur de Kinshasa de la tenue le 29 septembre d'une réunion publique. Au Mali, le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel a été transféré de Sévaré à Bamako, la capitale, sur décision de son commandant. Le point avec Idriss Fall.
Le général mauritanien Hanena Ould Sidi, chef de la force du G5 Sahel, travaille déjà avec son équipe sur place à Bamako. En tant qu'organe de coordination, le siège de cette force doit se trouver là, où les communications et les liaisons sont meilleures. L'officier mauritanien a succédé en juillet au général malien Didier Dako. Ce remplacement a été décidé lors d'un sommet du G5 le 2 juillet à Nouakchott en présence du président français Emmanuel Macron. C'était peu après un attentat djihadiste le 29 juillet contre le quartier général de la force à Sévaré qui avait fait 3 morts dont 2 militaires maliens. En 1 an, cette force a atteint quelque 80% de ses effectifs prévus de 5000 militaires. Elle a mené quelques opérations avec l'appui logistique de la force française Barkhane. Cependant, le G5 Sahel n'a pas encore d'impact réel sur le terrain où les djihadistes multiplient les attaques meurtrières. Son budget de quelque 420 millions d'euros a été bouclé après plusieurs réunions, mais les fonds tardent à venir. Cette semaine, la question du mandat robuste du financement du G5 a été évoquée aux Nations Unies par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.
L'armée française a arrêté hier à Ménaka au Mali 8 combattants de la CMA soupçonnés de collusion avec des djihadistes au cours d'une opération qui a mobilisé 120 parachutistes, a-t-on appris ce vendredi. Arrêtés au QG de la coordination des mouvements de l'Azawad, ces combattants sont soupçonnés d'être des infiltrés selon une source de sécurité malienne. Des armes et des munitions ont été également saisies selon un élu de Ménaka. Et le gouvernement sud-africain a dévoilé une nouvelle charte minière qui contraint les compagnies à faire passer la part de leur actionnariat noir de 26 à 30% de leur capital afin de corriger les inégalités économiques héritées de l'apartheid. Cette répartition doit être effective dans les 5 années à venir, a précisé le ministre sud-africain des Mines, Gwede Mantashe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, premier vote sous haute tension entre républicains et démocrates pour la recommandation du juge Kavanaugh à la Cour suprême après le ralliement en sa faveur d'un sénateur clé de coup de théâtre en déclaration indignée. Les premières minutes de la réunion de la commission judiciaire du Sénat ont pris un virage spectaculaire. La réunion de la commission judiciaire du Sénat a démarré dans un climat de vive tension politique et d'émotion. Les 11 républicains de la commission ont dit oui à l'unanimité pour la tenue du vote préliminaire à 17h30 temps universel, tandis que les 10 démocrates ont tous voté non en bloc furieux. Plusieurs démocrates ont quitté la salle en signe de protestation. Quelques instants avant l'ouverture de la réunion, un sénateur républicain clé pour la confirmation de Brett Kavanaugh a fait pencher la balance bien plus nettement en sa faveur. Le sénateur Jeff Flake a annoncé qu'il soutiendrait le juge conservateur lors du vote final en séance plénière qui devrait intervenir dans les prochains jours. Ce dont je suis certain, c'est que notre système judiciaire offre une présomption d'innocence aux personnes accusées. En l'absence de preuves vérifiées, a-t-il écrit. Les républicains disposent au Sénat d'une courte majorité de 51 sièges contre 49 pour les démocrates et ne peuvent se permettre qu'un désistement. Le doute demeure sur la décision de 2 sénatrices républicaines qui défendent le droit à l'avortement, Suzanne Collins et Lisa Murkowski. Du côté des démocrates, des sénateurs élus dans des terres pro-Trump et qui jouent, eux, leur réélection concerne également toute l'attention. Le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif a rejeté les accusations devant l'ONU du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, selon lesquelles l'Iran abriterait un site de stockage atomique secret. Et Kia Badou nous en dit plus.
Jeudi, Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran, carte à la main depuis la tribune de l'ONU, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. Comment Israël, le seul détenteur d'armes nucléaires au Moyen-Orient, peut-il accuser ainsi sans honte un autre pays dont les programmes ont été jugés pacifiques à maintes reprises par l'Agence internationale de l'énergie atomique ? S'est interrogé M. Zarif selon l'agence officielle iranienne IRNA. Monsieur Netanyahou s'est à nouveau félicité du retrait en mai des États-Unis, l'allié d'Israël, de l'accord international sur le nucléaire iranien. Cet accord conclu à Vienne en 2015 a permis de mettre fin à des années d'isolement de Téhéran par une levée partielle des sanctions économiques. En échange, l'Iran avait accepté de limiter drastiquement son programme d'enrichissement de l'uranium pour garantir qu'il ne cherche pas à se doter de l'arme atomique. Israël est la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient mais n'a pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La chaîne hôtelière américaine Yacht Hotel envisage de plus que doubler le nombre de ses hôtels en Afrique d'ici 2020 pour profiter de l'amélioration des liaisons aériennes et de la forte croissance économique du continent. Les nouveaux hôtels du groupe Yacht seront implantés entre autres à Nairobi, à Addis Abeba et à Arusha. Yacht Hotel dispose actuellement de 9 hôtels sur le continent africain. L'Éthiopie devrait enregistrer une croissance économique de 8% pour l'année fiscale 2018-2019, indique un communiqué du Fonds monétaire international. Les incertitudes liées à la stabilité économique et politique s'estompent, ce qui a entraîné une amélioration des investissements directs nationaux et étrangers. Le développement du secteur privé devrait aussi permettre une nouvelle hausse de la croissance économique pour l'exercice fiscal en cours. Stanbic Bank Botswana a signé avec l'OPIC, l'institution de financement du développement du gouvernement américain, un contrat de garantie de prêt de 125 millions de dollars pour soutenir le secteur du diamant. La croissance continue de ce secteur devrait aussi avoir des effets positifs sur des secteurs comme l'électricité, les finances et les affaires. Enfin, pour finir, le groupe marocain Banque Centrale Populaire a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 170,5 millions de dollars au premier semestre 2018. Cela représente une hausse de 1,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Au premier semestre 2018, le produit net bancaire du groupe a atteint une hausse de 2%.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Organisation de la CAN 2019. La CAF rendra sa décision après la présidentielle au Cameroun.
La Coupe d'Afrique des Nations 2019 est prévue au Cameroun, mais son organisation a été souvent remise en cause. Le malgache Ahmed Ahmed, patron de la CAF, dit qu'un comité exécutif de la CAF est plus choqué par le rapport d'audit sur l'avancement des travaux à Yaoundé et d'autres villes camerounaises. Le patron du football africain rappelle qu'il avait regretté en août 2017 l'inertie du Cameroun à propos des travaux en vue de la CAN 2019.
Le stade d'Antananarive suspendu pour les 3 prochains mois.
Le président du jury disciplinaire de la CAF a communiqué la sanction aujourd'hui et elle est sans appel. La Fédération malgache de football est interdite de faire jouer la sélection nationale dans le stade de Mahamasina et paiera une amende de 10 000 dollars le 9 septembre. Il avait été le théâtre d'une bousculade mortelle avant le coup d'envoi d'une rencontre contre le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Après l'attribution de l'Euro 2024 à l'Allemagne aux dépens de la Turquie, la presse turque fulmine contre l'UEFA.
Le quotidien Yenis Afak parle d'un choix qualifié de coup de poignard dans le dos. Ce n'est pas juste, l'UEFA a donné son soutien au racisme, a tonné en une le quotidien, précisant que c'est l'Europe qui a perdu. Les commentaires véhéments de la presse tranchent avec la réaction mesurée du ministre turc des Sports qui s'est contenté de juger désolant le choix de l'UEFA.
Le choc de la Première Ligue demain en Angleterre.
Des duels haut en couleur à 16h30 temps universel. C'est Chelsea-Liverpool ou Blues contre Red. Salé contre Alonso, Jorginho contre Milner, Alexander-Arnaud contre Hazard, sans oublier le duel tactique Jürgen Klopp et Maurizio Sarri sur les bancs. Il y aura aussi Manchester United contre West Ham. Le manager mancunier José Mourinho a annoncé Paul Pogba dans sa liste des 11 titulaires.
Et enfin, le basket féminin au Mondial 2018 en Espagne. Les Américaines et les Australiennes passent en demi-finale.
Les invincibles basketteuses américaines ont battu aujourd'hui le Nigeria en quart de finale, 71-40. Les australiennes ont surclassé la Chine, 83-42. Invaincues en compétition internationale depuis plus de 12 ans, les américaines joueront en demi-finale contre la Belgique ou la France.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a concédé que la force conjointe du G5 Sahel peinait à devenir opérationnelle. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. New York a aussi abrité une réunion de haut niveau sur le Mali. Raissa Girondin, notre envoyée spéciale à New York, a eu hier une interview exclusive avec le président Ibrahim Boubacar Keïta à New York. On l'écoute.
Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème. Le financement de cette force conjointe. Nous avons appelé une force conjointe. Cette force conjointe a besoin d'être opérationnelle. Et pour qu'elle le soit, il faudrait que son budget soit enfin en place. Parce que dans ce genre d'opération, il est surtout très dangereux dans l'incertitude, dans le hasard. Dès que les opérations commencent, il faut que se poursuive de manière continue. Et toute cette interruption est préjudiciable à l'efficacité. 423 millions d'euros, madame, ce n'est pas la mer à boire. Pour autant, nous avons encore une gap aujourd'hui de financement. Nous espérons que tout le plaidoyer qui est développé ça et là va aboutir à la conclusion effective de ce bouclage de financement.
Mais est-ce que vous avez donc une alternative au G5 Sahel pour...
Il n'y en a pas. Je pense que chacun convient que c'est le mode opératoire le mieux adapté aujourd'hui. Et chacun nous dit également vouloir nous aider à faire aboutir nos préoccupations dans ce domaine, dans le domaine de la plus grande publicité. Je pense que les valeurs civilisationnelles dont nous réclamons tous sont en cause aujourd'hui. On sait ce que Daesh a fait dans l'Est européen. La coalition internationale a réussi à le bouter maintenant, pratiquement, hors des endroits des grandes villes que Daesh occupait. Mais le reflux s'opère en pleine direction, s'opère vers nous. Et vers nous à travers un pays comme la Libye, qui aujourd'hui pose problème, un grand problème d'instabilité.
Comment doit évoluer donc le mandat en fait de la MINUSMA?
Le mandat de la MINUSMA aujourd'hui, à l'évidence, pose problème. C'est un paradoxe. Faire la paix, stabiliser la paix, alors même qu'elle n'est pas là. Stabiliser une paix impossible. Quand tous les jours, chaque jour, les actes de violence, les actes d'agression se développent contre les ravissements, contre les populations civiles, contre les villages paisibles maliens, contre les forces maliennes et les forces alliées, il faut donc que la mission dévolue aux forces amies d'agressement soit une mission un peu plus robuste. C'est ce que nous demandons, pas plus.
C'était le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à New York.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée-Bissau, le recensement en vue des élections législatives a finalement commencé avec près d'un mois de retard. Le président José Mario Vaza était le premier à s'inscrire. Le premier ministre Aristide Gomes a déclaré qu'il s'agit d'une phase très importante pour la réalisation du scrutin du 18 novembre. Ces législatives permettront-elles de sortir de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 4 ans? Idriss Fall a recueilli la réponse de Toulinabo Mushingi, ambassadeur américain à Bissau, de passage à Washington.
Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'espoir. Je crois que tous les signaux paraissent positifs. Les conversations, j'ai déjà visité la Guinée-Bissau 6 fois dans une année. Mes conversations avec les dirigeants des partis politiques, les conversations avec le gouvernement, en passant par le président, le premier ministre, d'autres ministres de l'Intérieur, ministre de Défense, etc., etc., ministre des Finances, les conversations avec le peuple moyen, le peuple lambda, tout le monde est prêt, tout le monde s'attend à ce que les élections aient lieu.
Maintenant, le problème les tenir, c'est une chose. Ouais. Mais vous savez bien, la Guinée-Bissau, le problème, c'est après les élections.
Oui. Ça, nous avons déjà entendu ça. Nous avons déjà entendu cette formule plusieurs fois, que le problème, c'est après les élections. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que, d'après mes conversations sur terrain, c'est que le peuple de la Guinée-Bissau est prêt pour essayer d'avancer, pour essayer de mettre ce chapitre derrière eux. Nous, les États-Unis d'Amérique, ce que nous sommes en train de pousser, c'est que la solution doit venir du peuple de Guinée-Bissau lui-même. Les différents partis politiques qui se connaissent, en fait, tout le monde, à un moment ou l'autre, appartenait au même parti politique. Donc les différents partis politiques doivent s'asseoir entre frères et sœurs, entre frères et filles du même pays, et discuter, dire quelle solution nous voulons pour notre pays. Moi, ce que je leur ai dit, une fois qu'ils se seront mis d'accord sur la solution qu'ils veulent, la ligne de conduite qu'ils décident de suivre, de mettre les intérêts du pays, les intérêts du peuple, au-dessus des intérêts individuels, des intérêts des partis politiques, une fois qu'ils arriveront à ce niveau-là, et je crois qu'ils sont dans cette trajectoire d'essayer d'arriver à ça, et à ce moment-là, ils peuvent maintenant dire, vous, nos amis, les États-Unis d'Amérique, où est-ce que vous pouvez nous aider à ça? C'est ça la position que je suis en train d'essayer de pousser.
C'était Toulinabou Mushingi, ambassadeur américain à Bissau. Il était de passage à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Burundi a suspendu pendant 3 mois les activités des ONG étrangères jusqu'à ce qu'elles se conforment à une nouvelle loi contrôlant strictement leurs opérations. Qu'en est-il des activités en cours? Quel impact cette décision peut-elle avoir sur les populations bénéficiaires des aides de ces organisations? Pour un élément de réponse, Nani Talani, adjoint à Paris, et Tchérina Girolon, responsable adjointe du Bureau Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, une ONG très active au Burundi.
Ce qui est certain, c'est que cette décision est prise dans un contexte où les violations graves des droits humains continuent d'être perpétrées au Burundi, et cela en toute impunité. Les exécutions sommaires se poursuivent, les disparitions forcées se poursuivent, d'autres violations très graves sont perpétrées. Pour l'essentiel de ces violations, la responsabilité des autorités burundaises, des forces de défense et de sécurité, des Imbonerakure, donc la milice proche du pouvoir, est clairement mise en cause. Ça s'inscrit dans un contexte où le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a lui-même rendu un rapport au début du mois de septembre indiquant que des violations graves des droits humains se poursuivaient au Burundi.
Quel impact la suspension des ONG internationales au Burundi peut-elle avoir sur les populations qui bénéficient des activités de ces ONG?
Tout dépendra aussi des ONG qui sont concernées, mais il va sans dire que les populations burundaises sont particulièrement affectées par la crise majeure qui a éclaté dans ce pays en 2015, que la situation économique est particulièrement alarmante, qu'il y a encore un nombre important aussi de personnes dont les proches sont partis. Enfin, il y a voilà, des structures familiales qui ont été complètement mises à mal. Donc c'est vrai que les ONG indépendantes, pour certaines d'entre elles, viennent pallier et viennent en soutien à ces populations qui sont affectées et qui ne bénéficient pas nécessairement du soutien qu'un État tel qu'il devrait l'être, apporterait à ces populations-là. Ce que l'on craint, c'est que cette décision, donc, mais qu'elle ait encore une fois un impact direct sur les populations burundaises. Le départ de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et la crise en elle-même a clairement eu des impacts directs sur les populations civiles au Burundi, qui sont les premières affectées par cette crise qui est en cours depuis 2015.
Et comment vous-même percevez-vous l'avenir des ONG au Burundi? Est-ce que vous gardez encore un espoir?
On garde évidemment un espoir parce que la société civile burundaise demeure très active, même en étant en exil, très active pour faire en sorte que la situation au Burundi reste une priorité pour la communauté internationale. Il y a quand même une mobilisation importante de la société civile burundaise.
C'était Tchérina Gérolon du Bureau Afrique de la FIDH. Elle était jointe à Paris.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Ici aux États-Unis, la commission judiciaire du Sénat a voté à 13h30 heure de Washington pour confirmer ou non le juge Kavanaugh nommé par le président Donald Trump à la Cour suprême. La réunion a débuté cet après-midi dans un climat de vives tensions politiques et d'émotions. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint le politologue Emilio Viano.
Ça a été une audience historique d'une rare intensité et suivie en direct par des millions d'Américains. Il y avait une grande différence. Christine Ford est apparue tout en retenue. Et au contraire, le juge Kavanaugh, tout en indignation. Et ce sont deux vérités irréconciliables qui se sont confrontées devant la commission judiciaire après que l'universitaire de 51 ans a accusé le candidat de Trump à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement dans sa jeunesse.
C'est compliqué d'établir la vérité.
C'est très compliqué, particulièrement quand il n'y a pas la volonté politique de le faire. Parce qu'on n'a pas fait une investigation de la FBI sur les accusations de la Dr. Ford. C'est vraiment le problème, n'est-ce pas, que la démocratie de laquelle les Américains sont très fiers et qui même ils l'ont présenté comme un modèle à la planète entière, paraît en ce moment ne pas fonctionner comme il devrait. Les deux partis, les démocrates et les républicains, ont cessé de s'accorder sur les règles du jeu de leur affrontement et ils n'ont pas plus la capacité de s'entendre, de gouverner dans une façon prévisible. Et ça, c'est un grand problème pour le pays.
La commission est apparue fortement divisée, très divisée. Ils étaient des deux côtés trop partisans. Est-ce un mauvais jour pour la démocratie américaine?
Je voulais dire oui, malheureusement. C'est un très mauvais jour, et particulièrement, c'est un mauvais jour aussi pour les femmes et les victimes d'agressions sexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes, qui peuvent maintenant penser que vraiment, pas beaucoup a changé pendant les 30 ans dernières, quand on a travaillé suffisamment, on penserait, pour avancer la cause des victimes.
C'était l'analyste Emilio Viano.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, Dan Crafton. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous en compagnie d'Henri Francisque pour un rappel de l'actualité dans le monde.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.